coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto.
Oui, je vais attendre. Je regarde bien avec ce Zoule.
Avec l'attaque d'Antichlec là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché.
Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, la sortie du dimanche, hein, ce dimanche justement, 16 février 2020. Avec moi, pour revenir sur l'actualité cycliste de la semaine, Théo. Bonsoir Théo.
Bonsoir tout le monde.
Également Baptiste, bonsoir Baptiste.
Salut à tous.
Également Greg, bonsoir Greg.
Bonsoir tout le monde.
Alors, ben, on va revenir tout d'abord en grande majorité sur le Tour de la Provence, remporté de main de maître par Nairo Quintana. Nairo Quintana qui bat les Astana... que sont Vlasov et Lutsenko. Baptiste, monsieur expert en Quintana,
Nairo... le quintanologue.
On peut dire que Nairo Quintana, qui remporte sa première victoire sur une course par étapes depuis 2017, a fait quand même très forte impression hier.
Ah bah ouais, il a mis une belle tôle à tout le monde dans la montée, bon, c'est pas complète en plus du Ventoux, hein, qui s'arrêtait au Chalet Renard. Après qu'il y ait eu des tels écarts, c'est pas très étonnant vu où on en est dans la saison. Un 15 février, c'est pas très étonnant. Les étapes de forme sont disparates. C'est très tôt dans la saison pour avoir un tel col. Donc c'est plutôt normal d'avoir vu de très gros écarts. Mais il met quand même une 28 au deuxième. Bon, assez impressionnant clairement. Et surtout, je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est rassurant pour lui et pour Arkea parce que on pouvait forcément se poser des questions, hein, sur ce transfert, sur est-ce que Nairo Quintana. De ce qu'il allait faire en arrivant chez Arkea. Il n'avait pas connu d'autre équipe que Movistar chez les pros, à part au tout début de sa carrière, mais avant qu'il devienne vraiment le coureur qu'on connaît, quoi. Il avait passé 8 ou 9 ans chez Movistar, je ne sais plus très bien. Et voilà, on avait un peu parlé aussi du fait que il était peut-être un peu cramé, un peu embourgeoisé, et puis que peut-être en passant d'une équipe World Tour très organisée comme Movistar à une équipe quand même plus avec moins de moyens, moins d'encadrement comme Arkea, peut-être que ça allait un peu mal se passer. Et bon, ça préjuge pas de ce qu'il fera, hein. C'est pas parce qu'il a gagné avec tant d'avance autour de la Provence qu'il va gagner le Tour de France, c'est clair. Mais moi, en tout cas, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, que ça, c'est rassurant quant à la perspective de la saison pour lui et pour Arkea.
Justement, d'ailleurs, Greg, une équipe Arkea qui a été à la hauteur de son leader.
Oui, ce que j'allais dire, parce que on les a vus au bon moment, finalement, dans cette montée du Ventoux, parce que dans un premier temps, c'est plutôt la Astana avec qui avait Vlasov avec le maillot de leader et la FDJ, enfin la Groupama FDJ qui avait pris en main la poursuite des échappés. Et c'est après au pied de la montée qu'on a vu petit à petit les Arkea, notamment on a vu un peu Barguil, on a vu surtout Winner Anacona, je crois, qui ont joué un grand rôle pour lancer leur leader. Et je trouve que c'est un bon point pour Arkea parce que voilà, ils sont montrés à l'avant du peloton au bon moment. Ils ont fait après leur travail pour leur leader et je pense que c'est voilà de bon augure pour la suite de voir pas seulement Nairo Quintana mais aussi qu'il a des gars avec lui pour l'aider, pour bien le placer dans les étapes difficiles.
D'ailleurs on a pu le voir également sur la dernière étape où à un moment un groupe d'une vingtaine de coureurs est sorti et les Arkea ont pu ramener tout ça à la raison même si Quintana était également devant. C'était Quintana Impérial, Théo, mais également derrière les Astana. On aurait pu penser qu'ils auraient pu être perturbés par les dires qu'il y a eu ces dernières semaines, et finalement pas du tout. Vlasov a été énorme sur la montée des crêtes, et que dire de Lutsenko?
Ouais, enfin, du coup, c'est une très bonne semaine pour eux. Ils peuvent pas vraiment être déçus vu le niveau qu'avait Quintana, mais ça doit être un peu rageant d'être à ce point au-dessus de la concurrence, mais de quand même pas réussir à concrétiser. Vlasov a très bien joué le coup, surtout qu'il semblait pas être le leader désigné. Au début de la route des crêtes, il roule un peu, mais sans vraiment se donner à fond, et il réussit à sortir. Lutsenko a semblé vraiment, vraiment très facile, mais bon, il sait pas non plus, sur le Ventoux, il a un peu joué la carte de Vlasov, et sur la route des crêtes, je pense que c'était le plus fort sur un effort. punchy. L'an dernier, il avait fait un très bon début de saison. Il avait gagné le Tour de Mans, si je dis pas de bêtises, vraiment en se baladant. Et il s'était un peu éteint au moment où on l'attendait le plus. Donc on va voir, est-ce que de nouveau, il est en forme un peu trop tôt. Et pour revenir sur Quintana, je ne sais pas comment vous avez regardé la course, mais vu que ce n'était pas en direct sur la chaîne L'Équipe, moi j'ai écouté les commentaires de la chaîne GCN, donc il y a une chaîne anglaise avec des anciens pros comme... j'ai oublié son nom, bon, enfin des coureurs qui ont couru pour Garmin. Il y avait Carton Kirby qui est aussi le commentateur d'Eurosport actuellement. Et il tournait en boucle sur le choix étrange de Quintana, pourquoi il était allé à Arkéa, c'est un peu étonnant. Et pendant la montée, ils étaient là vraiment, enfin, limite ils s'excusaient et... Je pense que ça a vraiment, un peu comme pour Terpstra l'an dernier, ça a vraiment choqué qu'ils puissent s'enterrer dans une équipe française qui, enfin, j'ai l'impression que les équipes françaises sont un peu perçues comme archaïques. Et ça fait plaisir pour le cyclisme français de voir que ben, même quand des grands coureurs, des stars internationales viennent en France, ben, réussissent à rester performantes.
Bah, c'est vrai, Baptiste, que ça faisait longtemps, bon, on ne va pas revenir sur le débat, mais qu'il n'y avait pas eu de stars. Cyclisme mondial dans les équipes françaises, Terpstra, Viviani, Quintana, mais finalement, si on réfléchit, ces dernières années, hors français, il y en a,
voilà.
Y en a eu peu. Hein.
Star international, effectivement. C'est comment
et
pour en plus, oui. Ouais. Bah, pour les choix de Quintana, il est surprenant, pas que pour les étrangers. Hein. Je pense qu'on est. Enfin voilà, même, souvenez-vous, les derniers, quand la rumeur a commencé à apparaître, et en plus, ça a été très long à être confirmé, cette information. On n'y croyait pas trop, on se demandait un peu, puis bon, vu que c'était pas vraiment démenti, qu'il n'y avait pas vraiment d'autres rumeurs, on a fini par se dire qu'en fait ça allait se passer comme ça, mais c'était quand même plutôt étonnant, c'est vrai. Et cette victoire, tu vois, Théo disait, c'est Matthew Lloyd, hein, je crois, le coureur, ouais. c'est Daniel Nopik qui nous dit ça sur le chat, effectivement, le coureur qui commentait. C'est assez symptomatique de ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que cette victoire, elle est importante. Pour le milieu du vélo, elle est importante pour les commentateurs et elle est importante pour Quintana et Arkéa parce que eux-mêmes sans doute doutaient de peut-être peut-être Quintana il se disait est-ce que j'ai fait le bon choix sportivement, Arkéa il se disait est-ce qu'il va être aussi fort chez nous que chez Movistar, est-ce qu'il va pas un peu venir, il vient là pas là un peu pour le chèque et puis pour un peu s'endormir doucement en fin de carrière. Quintana il a 30 ans maintenant et cette victoire assez impressionnante quand même, même si c'est tôt dans la saison et qu'il faut se garder de tout, toute conclusion trop hâtive, mais elle est quand même, je veux dire, la démonstration est suffisamment nette pour être vraiment rassurant, y compris en interne, quoi. Je pense que c'est pour construire la suite de la saison, c'est beaucoup plus serein. Si vous prenez par exemple les cas, je sais pas moi, de Boigny l'an dernier ou enfin, d'autres transferts de ce type qui on attend que la greffe prenne et puis prend pas trop. Et du coup toute la saison c'est en cours un peu après ça quoi. Et là au moins c'est une bonne chose de faite, il y a un peu un côté comme ça je trouve dans cette victoire.
Ah ben c'est sûr que ça fera pas une Joseba Beloki
voilà, exactement.
Avec Nairo Quintana. Parlons maintenant de notre sujet, c'était la reprise également Greg de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui disait souffrir de maux de ventre et qui a été un peu en retrait. Alors tout simplement, est-ce que c'est pour toi c'est inquiétant ou finalement il y a vraiment rien à dire, c'est juste un phénomène.
Hashtag conclusion hâtive. Oui, évidemment, enfin quand faut rappeler quand même que Thibaut Pinot n'avait pas couru quand même depuis le dernier tour, c'était la reprise. Donc il y a eu des maux de ventre, donc alors, même si évidemment tous les suiveurs français on regarde toujours Thibaut Pinot avec un autre œil maintenant, enfin voilà, vu ce qu'il a fait au dernier Tour de France, moi je suis pas particulièrement inquiet parce que je pense pas que le Tour de la Provence soit son objectif principal. Maintenant c'est vrai, il pouvait espérer peut-être être un petit peu mieux, mais voilà, après il y a le Tour du Haut-Var, il y a Paris-Nice, enfin il y a encore le temps de le voir au plus haut niveau, il y a le temps encore de revenir en grande forme, donc ce n'est pas si inquiétant. Peut-être plus globalement, peut-être que notamment sur le Ventoux, peut-être que la FDJ espérait quand même mieux, parce qu'on les a vus quand même rouler fort. Et je pense peut-être qu'ils n'attendaient pas à voir un Quintana à ce niveau-là. Peut-être qu'ils espéraient de jouer sur Pinot et Gauduc, l'un attaque et l'autre puisse contrer. Donc peut-être que collectivement, la FDJ pensait faire un petit peu mieux, mais il n'y a pas non plus de quoi être inquiet.
Théo, la question qui peut se poser pour Thibaut Pinot, quand on voit l'écart de forme avec Nairo Quintana, c'est pas pour le Tour du Var, c'est pas forcément qui arrive le week-end prochain, c'est plus dans l'approche de Paris-Nice où on peut se dire qu'il y en a un qui est en forme bien plus avancé que l'autre. Mais est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions? Je ne pense pas.
Non, je pense pas non plus. Effectivement, toute l'équipe a roulé, mais même dans le briefing, alors c'est marrant parce que les mots de vente de Pinot, ça ressemblait typiquement aux excuses de la Groupama, qui a toujours quelque chose. Mais dans le briefing qu'ils ont fait de la journée du
Surtout Pinot.
Ventoux, ils en ont pas parlé. Et je pense que c'est simplement que bah, ils étaient moins forts, ils le savaient. Et même, je pense qu'ils se sentaient pas en confiance. En tout cas, après la course, il a dit que lui et David Godu. Voulait pas forcément voulait enfin voilà se sentait pas forcément capable de gagner, mais que les équipiers voulaient rouler et qu'ils se sont dit ben pourquoi pas, on sait pas, ça se trouve nos jambes vont un peu, enfin on verra dans la montée, mais leurs objectifs sont pas là. Pour Paris-Nice, je pense que c'est un peu, enfin il y a quand même un écart de forme énorme. Quintana, on dirait qu'il est prêt pour le tour là, et Pinot, il commence sa saison, il n'avait pas couru depuis le Tour de France. Mais est-ce que Paris-Nice c'est vraiment un moment très important de la saison de Thibaut Pinot? Je suis pas convaincu non plus, donc on verra dans les semaines qui viennent. Godu sera sur le tour UAE. Bon, on saura un peu plus.
Baptiste, tu voulais réagir.
Oui, parce que en fait c'est Nopik sur le forum, et il en remet une couche sur le chat là, qui dit que c'est inquiétant pour Pinot. Il a une théorie qui est que en gros Pinot les deux dernières saisons avait très très bien démarré l'année, mais ça tient pas trop. Et je suis désolé Daniel, mais voilà, quand on regarde l'historique de Pinot, il y a des saisons où il avait excellemment démarré l'année et où ça s'est pas très bien passé ensuite, par exemple en 2016. Et à l'inverse, en 2017, il fait un début d'année, enfin je veux dire en février jusqu'à fin mars, où il commence seulement à sortir un peu la tête de l'eau, beaucoup plus, comment dire, discret. Et derrière, il fait son excellent Giro. Donc voilà, il y a pas de règles, il y a pas de, c'est pas un Valverde par exemple, on en reparlera peut-être plus tard. Mais voilà, au Valverde, quand dès février il est là, et le fait que cette saison il soit pas vraiment là en février est quand même plutôt inquiétant parce que c'est pas du tout son style. Pinot, il a fait un peu tout dans sa carrière, et c'est pas le seul d'ailleurs. Et voilà, il suffit de décaler un peu, il sort d'un stage aussi. Enfin voilà, je pense pas que. En plus, il fait 7e du général, je veux dire, c'est pas non plus grotesque. Il n'est pas à la rue, quoi. Il a fait des débuts de saison où il était bien plus à la rue que ça. Donc je suis vraiment pas plus inquiet que ça. Ça veut pas dire que tout va bien et que voilà, mais je suis pas du tout sûr qu'il faille s'alarmer, quoi.
Non, et puis surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas couru depuis juillet. Et on se rappelle dans quel état, au moins mental, il était. Donc pour ma part,
C'est
je ne
vrai
trouve
aussi.
pas cela inquiétant. Bien sûr, quand on voit Nairo Quintana, on fait oh, mon Dieu! Et puis bon, dans un mois, ça sera oublié. Donc, Théo, tu voulais réagir?
Oui, bah c'est aussi un petit autre truc. Enfin, on voit que sur l'étape de la route des Crêtes, Pinot arrive dans le groupe des favoris. Sur le Ventoux, là, on voit sa limite physique. C'est aussi qu'en début de saison, d'habitude, on n'a pas ce genre de montée. Donc, on voit pas l'écart, enfin, des écarts de niveau si
Tout à fait.
flagrants entre des coureurs. L'an dernier, sur le Tour de la Provence, Pinot est en forme. Mais bon, il n'arrive pas à décrocher de sa roue des Dunbar. Enfin, finalement, c'est Gorka Izagirre qui gagne, et on s'est pas inquiété. Voilà, je pense qu'aussi que Daniel se trompe.
D'ailleurs, on a vu au-delà de Thibaut Pinot que toute l'équipe SDJ, enfin la Groupama, pardon, qui était à un stage en altitude, a un peu marqué le pas, que ce soit Thibaut Pinot, mais il y avait également David Godu, Rudy Mollard ou Anthony Roux. Donc, on va attendre de voir. Je pense que ça devrait aller déjà un peu mieux au voir, même si, encore une fois, il n'était pas à la rue. Hein, il termine 7e, comme l'a dit Baptiste, mais il termine 7e dans les temps d'Eddie Dunbar ou de Wilco Kelderman qui termine 5e. Bon, ça va. Pour continuer, est-ce que vous avez des surprises sur ce tour de la Provence, des choses, des personnes qui vous ont surprise, peut-être Greg?
Ben, j'aimerais, enfin, surprise, oui, non, enfin, peut-être une confirmation, on l'attendait, d'Aurélien Paré-Peintre.
Aurélien Paré-Peintre, mais finalement pas tant que ça.
Voilà. Exactement, puisqu'il fait 9e sur la route des Crêtes, il fait 11e sur l'étape du Chalet Reynard. Donc voilà, 23 ans, c'est un coureur, enfin, AG2R n'avait peut-être pas d'immenses ambitions sur cette course. Et donc voilà, on attendait de voir ce qu'allait donner Aurélien Paré-Peintre. Certains parlaient d'un possible top 10. Bon, il est pas loin, il fait 11e au final. Donc c'est voilà, un coureur à suivre, encore un jeune coureur à suivre maintenant. Il y en a plusieurs, tant mieux, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Après avoir été 6e sur Bessèges, donc c'est bien qu'il confirme avec un parcours bien plus dur.
On a vu quelques coureurs marquer le pas, Baptiste, également sur ce Tour de la Provence. Je pense notamment, bon, peut-être à Warren Barguil, mais également à Pavel Sivakov qui ont été quand même en retrait. D'ailleurs, Pavel Sivakov qui était très dur envers lui-même au soir du Ventoux.
Oui, bon, alors, Barguil, il a quand même roulé pour Quintana, hein, faut quand même pas l'oublier. Concernant Sivakov, je pense que Sivakov, il n'avait pas grimpé de col comme le Chalet Reynard encore cette saison. Et donc voilà, tout le monde s'est pris, Théo l'a dit tout à l'heure, c'est très tôt dans la saison un col pareil. Donc ça fait éclater un peu des différences de rythme et de niveau de forme. Et grimper une côte de 5 bornes comme Sivakov on avait déjà fait cette saison et un col de 12, ça n'a quand même rien à voir. Donc voilà, il a juste atteint ses limites du moment. Mais bon, il n'y a pas de conclusion définitive sur ça. Donc voilà, c'est pour tous les coureurs de la même façon qu'à l'inverse. On a vu des coureurs qui, disons, si sur la même montée en mai-juin, ça n'aurait pas du tout été la même hiérarchie parmi le top 20 de l'étape. Donc moi, je suis pas très inquiet pour ceux qui sont passés au travers. C'est trop tôt dans la saison pour vraiment s'en inquiéter. Je saluerais juste, puisque tu voulais savoir si on avait un peu des noms comme ça à citer, je saluerais la 17e place au général final de Sam Omen. Qui n'avait pas couru depuis le Giro l'an dernier, donc ça fait un bail, et qui a été quand même assez rassurant. Il fait 16e sur la route des Crêtes, 21e au Chalet Reynard. Voilà, c'est pas encore, en plus en ayant un leader, Wilco Kelderman, qui finit devant lui, donc pas en leader. C'est assez intéressant pour un retour à la compétition, et je pense que lui-même et son équipe doivent être rassurés par ce retour.
D'ailleurs, c'était le retour de Domenico Bozzovivo également, qui termine 14e au classement général. Lui aussi qui revient d'une grave chute. Théo, un coureur qu'on ne cite pas dans les surprises, et pourtant, même si on l'a vu l'an dernier être très fort, c'est Vlasov, Alexandre Vlasov, qui était super fort sur la route des Crêtes et qui, encore une fois, au Ventoux, ne s'est pas laissé faire.
Ouais, je crois qu'il fait le Giro, et si son leader, ce sera Fuglsang, s'il a des... Je pense que c'est typiquement le genre de coureur. Je ne sais pas ce qu'il vaut en contre-la-montre, mais bon, vu sa taille, je pense qu'il doit pas être exceptionnel. Mais
qu'est-ce que c'est que ce stéréotype là ?
Non, c'est vrai, c'est vrai.
C'est pourquoi là, sa taille, tu
l'as. Il a l'air très haut sur son vélo. Il bouge beaucoup des épaules. C'est pas un style. Bon, je me trompe peut-être, tu vois. Mais enfin, j'ai jamais vu une de ses. Enfin, je vais pas dire que je le suis de près. Je vais pas mentir. Hein. Mais je ne me semble pas l'avoir vu vraiment performer dans des courses avec des contre-la-montre. Mais pour moi, c'est typiquement un coureur qui va faire des beaux résultats sur le calendrier italien. Enfin, il a l'air d'avoir l'habitude de ses courses. Il a gagné, si je ne dis pas de bêtises, il a gagné une étape sur le tour de... Bon, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais il a gagné le Giro Junior. Il a l'air de progresser un peu, les progressions à l'ancienne des jeunes qu'on voit arriver, qui se montent déjà dans des échappées. Je me rappelle d'un Tirreno où il est échappé avec Chris Neyland, qui est un peu plus coté que lui à l'époque. Et il le dépasse dans la montée, bon, il se fait rattraper par le peloton. Et après, il progresse petit à petit. Maintenant, il passe au niveau World Tour. Je pense que l'équipe Astana, c'est la bonne équipe si on veut, enfin, c'est la bonne équipe dans laquelle aller si on veut vraiment aller plus loin. Et je pense qu'il... C'est un coureur qui a l'air de pouvoir faire des classements généraux. Je voulais dire un petit mot sur Bouhanni, on n'en a pas beaucoup parlé, mais son sprint, il est vraiment rassurant. Il bat pas des pointures internationales, mais bon, Nizzolo avait quand même gagné au Down Under, et Maresco, il est rapide. Mais surtout, la manière dont il gagne, il part d'assez loin, il fait une sorte de double sprint, et il finit en costaud, c'est vraiment bien pour sa confiance, et même pour son niveau physique.
Je vois que sur le chat, ça parle beaucoup de la performance de Nairo Quintana. J'ai pas grand chose à dire pour ma part, j'ai pas trop vu, j'ai vu que les temps d'ascension étaient forts, mais en même temps, il y a tellement peu de comparaisons sur une arrivée. Voilà, il y a 9 km, il y a très peu de comparaisons avec des arrivées au Chalet Reynard. En 2016, quand le tour y arrive, c'est en plein milieu du tour, après une étape avec du vent de tous les côtés, donc je me garderai bien de tirer une quelconque conclusion. Conclusion que je vais tirer par contre sur le Tour de la Provence pour passer aux épreuves qu'il y avait cette semaine. Puisqu'il y en avait plusieurs. Et messieurs, ben, faisons un tour de table pour savoir ce que vous avez retenu, si vous aviez un coureur ou une image ou quelque chose, un résultat dont vous aviez envie de parler cette semaine. Et je vais commencer par toi, Baptiste.
Bah ouais, j'ai un tout petit peu vendu la mèche tout à l'heure, mais c'est vrai que on n'a pas vu un Alejandro Valverde hyper rassurant cette semaine, et c'est pas la première fois de la saison, puisque déjà on va dire que au Tour de Valence il avait vraiment semblé marquer le pas dans les Mouritos, et là au Tour de Murcie où le plateau était vachement plus faible, on a vu un enterrement de première classe sur la première étape avec une échappée qui est allée au bout avec quelque chose comme 20 minutes d'avance, je sais plus combien,
16 minutes, je crois.
16,49. Voilà, et derrière, sur la deuxième étape, il y a eu un peu un retour, mais Valverde, au final, termine seulement 7e. Et du coup, il n'est même pas dans le top 10 général, vu que la veille, il y avait eu ce coup de Trafalgar. Et du coup, voilà, on a un Valverde qui, d'habitude, est tellement fort dès le début de saison, qui garde le même niveau toute l'année. C'est pas hyper encourageant pour lui, et on a un peu l'impression que ça a mis du temps, mais qu'à bientôt 40 ans, c'est peut-être enfin le moment du déclin pur et simple pour lui. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu tôt pour. On n'arrête pas de dire qu'il faut pas tirer de conclusion hâtive, donc on va s'en garder pour lui aussi.
On va dire que c'est
Mais
la
faut dire
pointe
que
de
par
descente.
rapport à ces temps de passage, quand même, c'est pas très rassurant, et ça sent peut-être la saison de trop, quoi.
Ah, carrément. Je
Ouais.
vous pensais. Théo change le titre de la vidéo, mais Valverde, la saison de trop, Baptiste Boutier. Théo, t'as une image, enfin quelque chose
Bah, on a fait quasiment toute l'émission sur les stars internationales dans les équipes françaises qui peuvent réussir. Je pense que c'est le moment de parler d'Elia Viviani. Il n'avait pas réussi son Tour Down Under parce que bon, il avait pris une grosse chute. Donc on pouvait pas trop savoir où il en était. Là, ce soir, il courait, enfin cet après-midi, il courait la classique d'Almeria. Il a terminé troisième derrière Christophe et Ackermann. Et surtout, dans le sprint, il était posé dans la roue de Christophe et il pouvait pas remonter. Il semblait à l'agonie. Ouais, Viviani chez Cofidis, bon, c'est encore trop. Encore un petit peu tôt
Sûr, il
pour.
revient de blessure aussi, hein. Il s'était pas manqué sur le Down Under.
Ouais, mais il a continué à courir, c'est pas comme s'il avait coupé, hein.
Certes.
En plus, donc il se fait battre par Christophe et Ackermann. Ackermann qui avait pas non plus été flamboyant sur sa rentrée, donc c'est pas. On est encore au début de saison, mais c'est pas hyper rassurant pour Viviani.
Greg.
Ben, je parlerai de la course de cet après-midi, le Trofeo Lagheglia, avec la victoire de Ciccone qui a fait cette très jolie course. On l'a vu offensif à la fin, attaqué d'un groupe de 4. Et surtout, on retiendra, au-delà de la victoire de Ciccone pour sa reprise, la bonne performance de Bini Ailou, l'Érythréen de la Delco, enfin de Nippo Delco One Provence, hein, si on veut donner le nom complet, qui a seulement 19 ans, confirme un petit peu hein, les espoirs qui sont placés en lui, puisqu'il prend la deuxième place. Il a réussi à suivre donc Ciccone et Rosa quand ils ont attaqué à 20-30 km de l'arrivée. Et ensuite, il a battu Rosa au sprint pour la deuxième place. Alors c'est bien parce qu'avec, voilà, on avait vu gagner sur la Tropicale à Missabongo, mais là, à la fois le parcours et la concurrence était un petit peu plus relevée. Donc voilà, un coureur à suivre. C'est curieux de voir ce que ça va donner les années suivantes.
Ah, mais moi je trouve que c'est une vraie confirmation parce qu'il marche en Europe. Certes, il n'y avait pas forcément un très gros niveau sur les Ghiglia, mais devant si, hein, parce que quand Diego
C'était les
Rosso.
plus forts en fait. Ce qui est
Voilà.
intéressant, c'est qu'il a
Non,
pu
non.
suivre les plus forts.
C'est très intéressant ce qu'il montre. Pour ma part, le coureur dont j'ai parlé, enfin, c'est plutôt l'équipe, c'est B&B Hotel qui score par Johan Lebon, qui lui aussi revient de blessure. Finalement, il y en a pas mal qui reviennent de blessure ces derniers temps. Sur le, on va dire le Grand Prix de Malaisie, je sais plus comment ça s'appelle, la course qui suit le Tour du
C'est ça, ouais.
Langkawi. Et également Quentin Paché qui termine dans les 5 premiers au sommet de la, c'est quoi, Greatland Island, c'est ça? Je l'avais jamais vu grimpeur, donc je trouve que ça fait une belle performance et ça permet donc à toutes les Conti Pro et World Tour françaises d'avoir gagné cette saison. Donc bon début de saison pour eux tous. Et la deuxième image, et ça va permettre d'occuper les 5 dernières minutes d'émission, c'est les Education First qui écrasent le Tour de Colombie. Là, dans la dernière étape qui s'est achevée au moment où nous commencions l'émission, Egan Bernal avait 3 Education First dans la roue. C'était quand même quelque chose d'impressionnant, Greg.
Oui, c'est vrai. Déjà, c'est enfin demi-surprise. Ben, ils ont déjà gagné le contre-la-montre par équipe.
Ils ont
Donc
écrasé.
voilà. même en prenant une très large avance. Donc ça confirme un peu cette image qu'on avait vue donc comme équipe, bien qu'il reste la plus forte, puisque là donc sera l'étape la plus difficile, c'est Martinez qui devance Sagan et Bernal finit, même en étant offensif, car il a attaqué à la fin, donc troisième à une poignée de secondes des deux Education First.
Baptiste, Higuita, Martinez, on peut s'attendre à quoi cette saison?
Bah, du lourd, c'est sûr. Après, Higuita, l'an dernier, on avait un peu surpris hein, à percer à ce point-là. Martinez, il avait très bien démarré la saison, je me souviens, mais il avait eu un peu plus de mal derrière à confirmer. Il avait fait un excellent printemps. Il fait une très bonne fin de Paris-Nice, mais je crois qu'il fait pas un bon général parce qu'il était pas, il s'était fait piéger par les bordures en début de semaine. Il gagne, hein, c'est lui qui gagne, hein, si je dis pas de bêtises, au col de Turini.
Je pense. Ouais.
D'un échappé, il est sans concurrence d'un échappé.
Et ensuite, on l'avait un peu moins vu. Il avait fait une Vuelta.
Attends, excuse-moi, je dis n'importe quoi en plus. Je crois qu'il était pas d'un échappé.
Oui, il est pas au dernier moment, non. Il est. Non, je sais plus.
Si, bon, il est dans l'échappé. Ils sont avec.
Avec Miguel André Lopez.
Et Lopez, et il s'amuse, ouais. Et il y a Aidé derrière à 20 secondes en train de suer. Quoi.
Ah oui, bref, il avait fait une suite de saison un peu plus discrète, notamment à la Vuelta où il n'avait pas vraiment été, il n'avait pas vraiment trop existé. Higuita paraît plus fort en grimpette, mais Martinez est plus fort en chrono. Enfin, en tout cas, pour Education First, c'est quand même deux valeurs sûres pour les classements généraux. Et là, d'ailleurs, ils font le triplé, hein, parce que Caicedo fait troisième du général grâce au contre-la-montre par équipe inaugurale qui a vraiment, vraiment figé le général de ce Tour de Colombie. Un peu décevant d'ailleurs, le parcours était vraiment dispensable et améliorable au moins. Et bon, plutôt que ces mecs-là, je m'interroge un peu sur, on en parlait un petit peu hors antenne avant que ça démarre, je m'interroge un peu sur le début de saison d'Alaphilippe. Qui était totalement inexistant sur cette arrivée au sommet aujourd'hui, qui s'est un peu testé sur l'étape remportée en milieu de semaine par Higuita, qui est arrivé un peu en côte où il fait troisième. Mais voilà, et on l'avait déjà vu au précédent, il avait abandonné hein, en début de assez vite au sein de Juan, mais on le voyait se relever exprès pour perdre du temps. On l'a revu faire la même chose cette semaine, puis se tester donc sur une étape en puncher, puis aujourd'hui visiblement même pas essayer de suivre. Je sais pas, c'est surprenant pour un coureur qui jusqu'à présent avait plutôt tendance à essayer de gagner très vite. L'an dernier, il gagne tout de suite au San Juan. Il y a 2 ans, je crois qu'il gagne dès le Colombia Oro Ipaz à l'époque. J'avais l'impression que jusqu'à présent, il cherchait à gagner vite pour se rassurer. Alors, est-ce qu'il sent qu'il a peut-être plus besoin de ça et que du coup, il retarde son départ, sa forme? On sait qu'il a des objectifs, hein. Notamment il arrivait souvent cramé à Liège, donc peut-être cette année il essaye d'éviter ça. Mais en tout cas, voilà, je m'intéresse pas de réponse, mais voilà.
Mais c'est vrai, ça m'a surpris. C'est étonnant parce qu'on a quand même, enfin, pour un coureur qui a fait simplement une 4e place d'étape, on l'a beaucoup vu travailler pour ses sprinters. Sur l'étape de hier encore, il part à deux avec Jungkook à la fin et il est très, 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 très fort sur le plat. On dirait vraiment qu'il fait des efforts pour se faire suer en début de saison. Sur le contre-la-montre par équipe, on l'a vu faire exploser tout le groupe. C'est un peu étonnant, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à retenir de ce Tour de Colombie. Enfin, le seul truc qu'on peut retenir, c'est que Mogano est plus rapide que Hodge, mais est-ce que c'est vraiment important pour la suite de la saison? Je suis pas sûr.
En tous les cas, on a eu de très belles courses cette semaine. Je sais pas si ça sera le cas la semaine prochaine.
Il y en a des belles, enfin, en tout cas, le programme est alléchant aussi.
Ouais, il y a le Tour d'Algarve, la Ruta del Sol, le Tour du Haut-Var, le Tour of Antalya. De quoi faire on ne va pas faire un pronostic puisque on ne va pas décider une épreuve. On va éviter de se ridiculiser pour une fois.
Mais il y a le retour de la Remco Mania. Voilà. En Algarve.
Tout à fait, on verra ce
Il y a la reprise, je crois, le début de saison de Nibali, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, j'ai vu ça,
en Algarve également.
En Algarve, ouais.
Et,
ouais.
Y aura et de Charman aussi, tiens. Mathieu Van Der
Poel.
Et Mathieu Van Der Poel. On a les trois, on a plusieurs coureurs qui démarrent là-bas, effectivement, leur saison. Ce qui paraît presque tard maintenant, alors oui. Qu'on est le 15 février et finalement, c'est tout va bien. Mais c'est vrai que c'est devenu presque surprenant de commencer si tard la saison.
Mais il faudra qu'à une émission où il y a un peu moins à dire, qu'on parle de toutes ces épreuves qu'il y a. parce que finalement, on a une orgie de courses et de retransmission télé également, hein, qu'on a vu pour autrefois. Ce qui disperse le peloton, et c'est peut-être ça également qui permet les courses un peu débridées. Bien, en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des courses de la semaine. On vous souhaite en attendant tout simplement une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
Salut.
Au revoir.